Alors bonjour à chacune et chacun que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. On est heureux de se retrouver ensemble de différentes communautés ce matin pour voilà, célébrer d'une façon concrète que nous faisons bien partie d'une seule et même famille. Tout à l'heure, André nous a encouragés à nous aligner sur la parole de Dieu et on a pris peut-être un petit temps de prière individuelle où on a exprimé ce souhait à Dieu de pouvoir s'aligner sur sa parole. Et alors, si on veut pouvoir s'aligner sur sa parole, eh bien, la première chose à faire, c'est de se mettre à l'écoute de cette parole. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant sur ce sujet de l'unité des croyants. Et donc, ce que je vais présenter sera un petit peu en deux parties. Une première partie où on se met à l'écoute de ce que nous dit la parole de Dieu sur cette unité, et une deuxième partie plutôt où nous sommes encouragés à nous aligner sur ce que Dieu nous dit à propos de cette unité. Alors pour cela, je vous propose de lire dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2. Et je vais lire à partir du verset 11, dans la seconde 21. Juste le contexte dans ces versets que nous allons lire, Paul parle de ce qui s'est passé grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, où il évoque deux groupes distincts, les Juifs d'un côté et les non-Juifs de l'autre, et il les a réunis en une seule et même famille. Alors je vais me permettre, dans certains versets, de transformer le « vous » en « nous ». Cela ne change absolument pas le sens, mais « vous », on se sent un petit peu moins concerné, peut-être. Et en fait, ce que dit Paul nous concerne directement, chacune et chacun d'entre nous. C'est pour ça que je vais me permettre cette petite modification de temps en temps. Alors, verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenons-nous que nous étions sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions autrefois loin, nous sommes devenus proches par le sang du Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Nous sommes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que nous aussi, nous sommes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Je m'arrête là pour le moment. Au verset 13, l'apôtre affirme que en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus proches. Nous sommes devenus proches. Que veut-il dire par là ? Proche de qui ? Au verset 16, il dit qu'il a voulu nous réconcilier avec Dieu. Et au verset 18, il peut dire que nous avons accès auprès du Père. On comprend donc que cette proximité dont parle l'apôtre ici, c'est le fait que maintenant, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, chacune, chacun d'entre nous, nous sommes proches de Dieu. Nous avons maintenant accès à Dieu. Mais il me semble que la proximité dont il parle, ce n'est pas juste cette proximité sur le plan individuel, dans notre relation personnelle avec Dieu. Il peut dire, au verset 14, il parle des deux groupes hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a fait un seul groupe, il a détruit ce qui les séparait. Verset 15, il a créé en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. Il a établi la paix. Et puis, il les a réunis, au verset 16, dans un seul corps. Alors, on comprend que cette proximité dont il est question ici, eh bien, c'est la proximité que nous pouvons avoir les uns avec les autres, entre enfants de Dieu. Donc, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes rendus proches à la fois de Dieu et aussi sur le plan horizontal, les uns avec les autres. Et cette proximité, elle est rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Et cela, je dirais, c'est rassurant. Cela montre que si on peut être proche de Dieu, si on peut faire partie d'une même famille, cela ne dépend pas de nous-mêmes. Mais cela est un fruit de l'œuvre de Jésus-Christ. Et alors c'est rassurant parce que si ça dépendait de nous, on aurait peut-être du souci à se faire. Mais là, voilà, ça dépend uniquement de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et par cette œuvre, on l'a lu, il a établi la paix, il a supprimé la haine. De deux groupes, il en a fait un. Donc ces images nous parlent de l'unité, et cette fois de l'unité des enfants de Dieu. Et là aussi, c'est rassurant de savoir que cette unité, elle ne dépend pas de nous, mais elle est directement le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes devenus proches par le sang du Christ, à la fin du verset 13. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons créer cette famille des enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a créé, et béni soit-il pour cela. Au verset 15, il prend cette image du seul homme nouveau. Il a créé en lui-même un seul homme nouveau. Là encore, on voit bien que c'est lié à Jésus-Christ. Cet homme nouveau qu'il a créé, c'est en lui-même, c'est par son œuvre à la croix qu'il l'a créé. Et on comprend que cet homme nouveau renvoie à l'ensemble des enfants de Dieu. C'est la famille de Dieu. Cette unité qu'il a créée dans sa famille, là encore, elle dépend de lui-même et non pas de nous, et cela est quelque chose de fondamental et quelque chose vraiment de rassurant. Et ensuite, il prend l'image, donc là il y avait un seul homme nouveau, et il bascule sur un seul corps. Bien sûr, ce corps nous parle aussi de l'unité, mais on le trouve aussi sous la plume de l'apôtre Paul. Cette unité, elle existe dans la diversité. Un corps, il est composé de plusieurs membres. Et Paul utilise cette image dans ses épîtres pour dire, voilà, il y a bien un seul corps, mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Alors cette unité créée par Jésus-Christ, ce n'est pas une unité qui viserait l'uniformité. C'est une unité dans la diversité que nous sommes déjà en tant qu'individus, et puis aussi dans la diversité de nos communautés locales qui ne se ressemblent pas nécessairement. Mais nous sommes néanmoins un. On retrouve aussi cette pensée un peu de, à la fois de diversité et d'unité au verset 18, hein, lorsqu'il peut dire que nous avons les uns et les autres, hein, donc là, il parle d'individus différents, accès au Père par le même esprit. Nous sommes différents, nous avons accès au Père, mais si nous avons accès au Père, c'est parce qu'il y a le même esprit qui nous habite les uns et les autres. Je poursuis au verset 19 et dans les versets qui suivent, cette fois il prend l'image de la famille de Dieu pour parler de notre unité. Et s'il introduit le verset 19 par « ainsi donc hein, », ce petit mot renvoie à tout ce qu'il a développé avant, et cela nous montre encore que cette famille que nous formons, eh bien, ce n'est pas, je dirais, de notre volonté qu'elle est née, mais une fois de plus, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ accompli à la croix qu'il y a maintenant une seule famille chez les enfants de Dieu. Et après la famille, il prend l'image d'un temple. C'est en Jésus-Christ, encore une fois, c'est bien lui qui est le centre, c'est bien lui qui permet cela. Il a même dit qu'il était la pierre angulaire sur laquelle tout se construit. Eh bien, en lui, sur cette pierre angulaire, nous formons, chers frères et sœurs, un temple saint dans le Seigneur. Un temple dans lequel Dieu habite par son esprit. Ce survol que nous venons de faire nous montre donc tout spécialement une conséquence de l'œuvre de Jésus-Christ. Des conséquences, il y en a plein de son œuvre. Hein, tout à l'heure, Luc a parlé de toutes ces bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Mais voilà, ici, elle est focalisée sur une conséquence, savoir l'Église. L'Église, fruit de l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'apôtre utilise plusieurs images pour parler de cette Église. On l'a dit, de l'image de l'homme, du nouvel homme, l'image du corps, l'image de la famille, l'image du temple. Donc, juste dans ces quelques versets, quatre images pour parler de cette Église. Et je voudrais juste m'arrêter un instant sur une de ces images, celle du nouvel homme créé en Jésus-Christ. Verset 15, « Il a créé en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, les deux groupes dont j'ai parti, pour en faire un seul. » Cette réalité de la création d'un seul homme nouveau, elle peut faire écho, en tout cas elle fait écho, aussi à une réalité individuelle. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, sur le plan individuel, nous devenons aussi un homme nouveau. Alors un homme dans le sens large d'être humain, hein, on a bien compris. Et Paul en parle, par exemple, au chapitre 4, au verset 24, hein, où nous sommes encouragés à nous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc on retrouve les mêmes choses qu'on a ici, sauf qu'ici c'est pour l'Église, hein, la création d'un nouvel homme, et un peu plus loin, sur le plan individuel, aussi on est un homme nouveau créé en Jésus-Christ. Je pensais aussi à ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, où en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Et là, c'est sur le plan individuel. Si je voulais m'arrêter sur cette image qui est employée pour l'Église, c'était pour bien mettre en relief que le salut en Jésus-Christ revêt une double dimension. Il a une dimension individuelle, mais il a aussi une dimension collective. Souvent, lorsqu'on parle du salut, enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais on pense avant tout à la dimension individuelle. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu avec repentance et foi, et ça c'est une démarche individuelle. Nous parlons de notre relation personnelle avec Dieu, et nous avons tout à fait raison de le faire, cela est une réalité. Cela est juste. Mais n'oublions pas que si effectivement c'est sur le plan personnel, sur le plan individuel, qu'on peut s'approcher de Dieu, qu'on doit s'approcher de Dieu, le salut que Dieu nous offre n'est pas juste un salut individuel. Non seulement on devient, en s'approchant de lui, une nouvelle créature, une nouvelle création sur le plan individuel, mais dans le projet de Dieu, on est aussi intégré à cet homme nouveau dont il parle ici, à sa famille. On intègre automatiquement la famille de Dieu lorsque on se tourne vers lui avec foi et repentance. L'Église, dans le plan de Dieu, ça n'est pas une option. L'Église fait partie intégrante du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, ne l'oublions pas, et en disant ça, c'est aussi à moi que je m'adresse, parce que facilement, on pense avant tout à nous en tant que personne, avant tout à notre relation personnelle avec Dieu. C'est juste, je le redis, et on a raison. Mais n'oublions pas que c'est qu'une partie de ce salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et la deuxième partie, c'est ce que nous pouvons vivre aujourd'hui ensemble, c'est l'Église de Dieu. Nous faisons partie de cet homme nouveau. L'intégration, notre intégration dans l'Église de Dieu fait vraiment partie du plan de Dieu pour nous. Je pense à ce texte de 1 Corinthiens 13, verset 12, où il est dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Cette œuvre de l'esprit, ce qui se passe, il y a aussi cet objectif que nous formions un seul corps. Alors, ce que nous venons de voir là, c'est beau, ce plan de Dieu pour son Église. Mais quand on regarde la vie de l'Église, la vie de notre Église locale, chacun nous venons de différentes églises, quand on regarde de façon plus large la vie de l'Église, ça semble un peu différent de ce portrait qui vient d'être dressé par l'apôtre Paul. Alors, est-ce que la parole de Dieu se tromperait ? Loin de moi une telle pensée. Mais alors, comment comprendre ? Comment comprendre ce qui est dit ici alors que la réalité est malheureusement différente ? Ce que nous présente Paul, ici, c'est une réalité spirituelle. C'est quelque chose qui est vrai sur le plan spirituel. Je fais le parallèle, peut-être parce que pour essayer de rendre la chose un peu plus concrète. Au niveau de nous en tant qu'individus, en tant qu'individu, lorsque on s'approche de Dieu, j'ai cité ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 17, on devient une nouvelle création en Jésus-Christ. Ce texte nous dit aussi, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Alors ça, c'est vrai pour chacune, chacun d'entre nous. Est-ce que dans la réalité, vous avez toujours l'impression de vivre ça en toute sa profondeur, que les choses anciennes avant votre conversion, ça y est, c'est totalement fini, que maintenant toutes choses sont faites nouvelles, que maintenant vous êtes une nouvelle création si belle. Là aussi, en tous les cas pour moi je le sens, mais j'imagine que la plupart d'entre vous aussi, on sent une distance entre ce que dit la parole de Dieu sur ce que nous devenons en tant qu'individus et sur la façon dont nous le vivons. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous appelle à la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la parole de Dieu nous encourage à laisser œuvrer l'Esprit de Dieu en nous pour que notre vie concrète deviennent de plus en plus en cohérence avec ce que nous sommes réellement devenus en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ, nous sommes réellement devenus une nouvelle création. Les choses anciennes, effectivement, sont vraiment passées maintenant. Notre maître, c'est Dieu, c'est plus le diable. Ça, c'est une réalité. Mais nous avons de la peine à la mettre parfaitement en musique dans notre vie de chaque jour. Et c'est cela, l'œuvre de la sanctification. C'est que nous puissions avoir une vie qui soit toujours plus en cohérence avec cette réalité spirituelle. Eh bien, ce qui est vrai sur le plan individuel, c'est aussi vrai sur le plan de l'Église. Effectivement, Dieu a créé une merveilleuse unité en Jésus-Christ. Dieu a détruit l'inimitié en Jésus-Christ, a fait de nous une seule et même famille, un seul et même corps. Ça, c'est une réalité, chers frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui pouvons le créer. Mais notre responsabilité maintenant, c'est de vivre en cohérence en tant qu'Église avec cette réalité. Et alors, je passe au chapitre 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Ici, l'apôtre parle d'un appel. Il nous encourage à vivre de manière digne de l'appel que nous avons reçu au verset 1 ou au verset 4, à la fin du verset 4, il parle de notre vocation. Quel est cet appel ? Quelle est cette vocation auquel l'apôtre fait référence dans ces versets ? Si on regarde ce qu'il a dit dans les précédents chapitres de cette lettre, eh bien, dans les chapitres 1 à 3, on voit qu'en Jésus-Christ, l'apôtre met en relief que nous sommes un peuple saint appelé à glorifier Dieu. Dans le chapitre 2, il y a cette transition entre notre foi et un maintenant. On n'a pas lu le début du chapitre 2 qui focalise sur nous en tant qu'individus. Autrefois, nous étions pécheurs. Autrefois, nous étions sous le coup de la colère de Dieu. Mais maintenant, c'est dans le début du chapitre 2, nous sommes vivants en Jésus-Christ pour une vie de bonnes œuvres. Alors, l'apôtre, derrière, à travers cette autre foi et maintenant, il nous appelle à vivre, sur le plan individuel, une vie sanctifiée. Et puis, dans ce qu'on a lu, là aussi, il y a un autre foi et un maintenant, mais cette fois, c'est sur le plan de la dimension collective de l'Église. Autre foi, sans Christ, sans espérance, on pourrait trouver d'autres choses dans ce qu'on a lu. Et maintenant, en Christ, nous sommes réconciliés. Et donc, derrière, un appel à vivre selon cette réalité-là, à vivre cette unité qui existe en Jésus-Christ. Donc, c'est à cela auquel l'apôtre renvoie lorsqu'il parle de cet appel et de cette vocation. Mais si on veut pouvoir avoir une vie digne de cet appel, eh bien, il y a la nécessité que ce que nous croyons soit conforme à ce que nous sommes réellement devenus en Jésus-Christ. Ce soit conforme sur le plan individuel, bien sûr, mais sur le plan collectif. C'est pour ça que Paul, avant d'encourager à vivre selon cet appel, eh bien, il a précisé quel était cet appel. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter d'abord sur ces versets du chapitre 2 qui nous montre la réalité spirituelle de l'Église de Dieu. Et maintenant, Paul peut dire, eh bien, puisque vous avez compris que vous êtes réellement un en Jésus-Christ, une seule et même famille, alors maintenant, vivez selon cette réalité-là. Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Il parle, au verset 3, de conserver l'unité de l'esprit. S'il parle de la conserver, c'est parce que cette unité, elle existe. Sinon, il dirait créer l'unité de l'esprit. Non. On a vu. Cette unité, elle existe grâce à l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Alors, notre responsabilité maintenant, c'est de vivre selon cette réalité-là. Et vivre selon cette réalité-là, eh bien, il va parler de se supporter les uns les autres. Il va parler de s'efforcer de conserver cette unité. Alors, cela nous montre que si cette unité, c'est une réalité, eh bien, cette unité, c'est aussi un défi. C'est aussi un défi, parce que nous sommes différents les uns des autres, des êtres humains différents, avec des caractères différents, avec des aspirations différentes, des façons de vivre différents. Et du coup, c'est pas toujours facile de marcher ensemble. On a à faire des efforts. Et il nous a donné, l'apôtre, une motivation à faire ces efforts, à se supporter les uns les autres, c'est en nous rappelant quelle était la réalité de ce que Jésus-Christ avait créé. Voilà, si on l'a bien en tête, ça peut nous aider. Mais il ne s'en arrête pas là pour nous aider. On voit qu'il a introduit son appel à l'unité, par un appel à l'humilité, dans les versets qu'on a lus, à la douceur, à la patience, à la paix. Finalement, il a introduit ça par un appel à l'amour. Et au verset, c'était juste à la fin du chapitre 3, on voit que Paul, justement, prie pour que nous soyons remplis de l'amour de Dieu. Et là, finalement, il nous encourage à vivre de façon concrète selon cet amour. Cela nous rappelle quelque chose de fondamental. Il y a, bien sûr, nous avons à la fois besoin de Dieu, besoin que Dieu déverse sur le plan individuel son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a notre responsabilité ensuite. Oui, on a besoin de Dieu, mais ensuite, ce n'est pas Dieu qui va tout faire. Dieu nous appelle à mettre en œuvre notre responsabilité pour nous aimer les uns les autres, pour, d'une façon ou d'une autre, manifester cette réalité que nous sommes un en Jésus-Christ. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une façon de le manifester. Si nous nous rencontrons là, plusieurs communautés, ce n'est pas pour créer cette unité, mais c'est au contraire pour être une expression du fait que cette unité, elle existe bien. Et pour conserver cette unité, comme nous y sommes appelés, je crois que l'amour est vraiment fondamental. Il ne suffit pas juste de savoir, comme je l'ai dit, que cette unité, elle est réelle, et bien puisqu'elle est réelle, maintenant je vais vivre comme ça, et alors de chercher à mettre en œuvre des tas de choses pour manifester qu'on est un, en fait. Ben voilà, par exemple, un culte en commun, comme le fait le CNEF en cette journée du 5 octobre. Si il y a juste cette dimension-là, ça ne marchera pas. Nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu pour arriver à vivre selon cet appel que nous avons tous reçu. Et puis, je termine. Il donne ensuite d'autres motivations. Il nous rappelle que nous avons un seul et même esprit, qu'il y a un seul et même Seigneur, un seul et même Dieu et Père de tous. La foi chrétienne, c'est s'engager à la suite d'un Dieu trinitaire, c'est-à-dire d'un Dieu qui est parfaitement un et en même temps d'un Dieu dans lequel il y a de la différence. Alors c'est à cette image-là, c'est ce Dieu-là que nous voulons suivre, et bien c'est à cette image-là que nous sommes appelés à vivre l'unité de l'Église dans la différence. Il y a d'autres choses qui sont données, mais je m'arrête là. Et donc, pour terminer, je reprends juste deux points. Tout d'abord, je veux rappeler deux vérités fondamentales que nous avons vues. En Jésus-Christ, grâce à son œuvre, nous sommes une nouvelle création sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et, deuxième point fondamental, nous sommes appelés à vivre en cohérence avec ce que nous sommes réellement devenus en Jésus-Christ, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et du coup, cette manifestation sur le plan collectif, eh bien, c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui en nous retrouvant quelques-uns, mais comme je l'ai évoqué aussi, cette unité, elle est beaucoup plus large que juste ces quelques communautés que nous représentons. Elle manifeste, elle est constituée de l'ensemble des enfants de Dieu. Alors, une autre façon de manifester que nous faisons partie du même corps, eh bien, c'est aussi de penser les uns aux autres par la prière. J'ai évoqué nos frères et sœurs persécutés, mais il n'y a pas qu'eux, il y a ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont dans la déprime, etc., etc. Voilà une autre façon de marquer, de vivre que nous faisons vraiment partie de cette même famille, c'est de pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide les uns et les autres à vivre cette réalité de cette unité déjà au sein de nos églises locales et puis de façon plus large entre les différentes communautés que nous représentons. Et merci à notre Dieu parce qu'il nous donne son esprit par lequel il verse son amour dans nos cœurs et nous en avons fondamentalement besoin pour vivre ces réalités-là. Thank you.